Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les bureaux de vote ont ouvert en Israël ce matin pour des législatives qui détermineront le prochain Premier ministre du pays. Benjamin Netanyahou pourra-t-il se maintenir au pouvoir? Panorama de la campagne et des forces en présence dans un instant. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Tel Aviv.
Et puis nous interrogerons aussi notre correspondant à Londres. Alors que le gouvernement britannique évoque maintenant de possibles élections européennes, Theresa May sera à Berlin et à Paris aujourd'hui.
Qui sera le président par intérim en Algérie? Le Parlement doit choisir aujourd'hui. Et vous comprendrez que l'homme fort du pays reste le chef d'état-major.
Et puis les députés français passent outre les menaces américaines sur la taxe des entreprises numériques. Ils l'ont validée hier soir.
Calcul politique et calculette budgétaire. La fiscalité est au centre des réponses du gouvernement après le grand débat national. Frédéric Seiss analysera cette réplique dans son billet politique dans un quart d'heure. C'est une élection électrique qui débute en Israël, élection législative auquel se représente le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Il est au pouvoir depuis 10 ans avec son parti conservateur, le Likoud. Face à lui, un ancien chef d'état-major qui pourrait le faire vaciller. Il s'appelle Benny Gantz, représente le parti centriste. 6 300 000 électeurs sont appelés à se prononcer aujourd'hui. Les bureaux de vote, ça y est, ont ouvert il y a 2 heures maintenant. Bureau de Tel Aviv notamment, où vous vous trouvez ce matin, Valérie Rikrova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en Israël. L'issue du scrutin est très incertaine après, Valérie, une campagne délétère dominée par des attaques personnelles.
Oui, ce vote s'apparente à un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou qui fait l'objet de 3 procédures contre corruption, fraude et abus de confiance. Le Premier ministre sortant a parlé de chasse aux sorcières face à ces accusations montées selon lui de toutes pièces par la presse. Et l'une des questions est de savoir si les suspicions qui pèsent sur Bibi, son surnom, prendront le dessus sur ses réussites diplomatiques. Il a mis en avant son bilan en matière sécuritaire et en matière économique. Et c'est vrai que sur ce plan, la situation est plutôt bonne en Israël.
Et face à Benjamin Netanyahou, Valérie, il y a son ancien chef d'état-major, Benny Gantz. Lui propose une alternative de rassemblement.
Oui, Benny Gantz n'hésite pas à dire que Netanyahou, de 10 ans son aîné, a fait son temps. Gantz et le parti bleu-blanc, les couleurs d'Israël, a axé sa campagne sur la lutte contre la corruption, dont le Premier ministre sortant se serait rendu coupable. Nouveau venu en politique, Gantz n'a pas beaucoup d'expérience, en particulier à l'international, contrairement à son adversaire qui n'a eu de cesse de revendiquer ses amitiés avec les plus grands dirigeants et notamment Donald Trump. Gantz, lui, parle un mauvais anglais, ce que Bibi n'a pas manqué de souligner en disant que ce serait un problème pour s'adresser au monde. Bref, tous les coups, même les plus bas, ont été permis durant cette campagne qui restera sûrement comme l'une des plus dures qu'ait connue Israël.
Merci Valérie. Valérie Krova en direct depuis Tel Aviv ce matin grâce aux moyens techniques d'Hélène Langlois alors que débutent donc les élections législatives dans le pays. L'incertitude à la une décidément de cette actualité en ce mardi matin, elle domine toujours au Royaume-Uni où tous les scénarios restent envisagés, même l'organisation d'élections européennes. Une date a été annoncée hier soir, le 23 mai, si le Brexit est abandonné, car pour le moment aucun accord n'est trouvé et Londres mise toujours sur un report du Brexit jusqu'au 30 juin prochain. Avant un sommet européen demain, la première ministre britannique plaidera cette cause aujourd'hui à Berlin puis à Paris. Bonjour Antoine Géniaud.
Bonjour.
Antoine, Theresa May a-t-elle encore des cartes en main? Quelle garantie peut-elle donner?
Elle vient surtout faire des promesses, Theresa May. Promesses que si les Britanniques restent encore quelques semaines, quelques mois au sein de l'Union européenne, ils respecteront les règles, ils ne chercheront pas à saboter le budget. D'ailleurs, c'est avec le zèle d'un bon élève que le gouvernement a validé hier l'organisation des élections européennes, le 23 mai. L'annonce est censée rassurer les chefs d'État des 27, mais cette déclaration de bonnes intentions ne va sans doute pas suffire. Emmanuel Macron, entre autres, pourrait bien dire non. C'est son moment de Gaulle, écrit le Daily Mail. Il repousse le Royaume-Uni comme dans les années 60. La seule façon de convaincre le président français, ce serait de présenter un plan clair pour sortir de la crise du Brexit. Plan qui, aujourd'hui, n'existe pas. Les discussions entre le gouvernement et l'opposition travailliste n'ont rien donné. Et les conservateurs eurosceptiques accusent désormais Theresa May de frayer avec les marxistes. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer sa tête.
Alors Antoine, si toutes ces discussions, toutes ces tractations n'aboutissent pas, ou si l'Union européenne refuse de reporter la date du Brexit, que peut-il se passer ?
En théorie, le Royaume-Uni est censé sortir de l'Union européenne sans aucun accord vendredi prochain. Mais ça, c'est en théorie seulement, parce que les députés puis les lords, hier soir, ont adopté une loi qui interdit désormais au gouvernement de mettre en route ce processus de sortie sans accord. Du coup, si rien ne bouge, il ne reste juridiquement que deux possibilités. Soit Theresa May annule purement et simplement le Brexit, soit elle négocie un nouveau délai et elle propose aux députés un deuxième référendum avec éventuellement des élections législatives anticipées.
Encore des si à 3 jours de la date limite. Merci Antoine Géniaud. Je rappelle que vous êtes le correspondant de France Culture à Londres. Pendant ce temps, la campagne électorale pour les élections européennes, elle démarre un peu partout dans l'Union. Et France Culture s'en fait l'écho avec un mot-clé, un mot dièse, votre Europe sur les réseaux sociaux, ainsi que des articles fouillés sur notre site internet ce matin. Washington, Moscou, Pékin face à l'Europe. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les deux camps qui s'opposent en ce moment en Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale et le maréchal Haftar qui a lancé jeudi une offensive vers Tripoli. Selon le communiqué de l'Élysée, le chef de l'État français leur a exprimé sa préoccupation et a demandé à renouer le dialogue. Depuis hier à Tripoli, tous les vols sont suspendus car le seul aéroport fonctionnel de la capitale a été touché par une frappe aérienne. Il n'y a là eu aucune victime, mais des dizaines de personnes sont déjà mortes dans cette offensive. Des coups de feu ont été entendus ce matin à Khartoum, capitale du Soudan. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de sécurité sur les milliers de manifestants. Ils se sont rassemblés à proximité du quartier général de l'armée pour la 3e nuit consécutive et protestent toujours contre le pouvoir du président Omar el-Béchir, arrivé à la tête du pays en 1989. En Algérie, la contestation populaire a déjà poussé à la démission le président Abdelaziz Bouteflika, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, le Parlement doit se réunir dans le cadre de la procédure d'intérim. Le président du Sénat n'est pas sûr d'être nommé, tant il est décrié par la rue. L'homme fort, désormais, c'est bien Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major. Et il a déjà prouvé sa force de persuasion, Leïla Berato.
C'est après son message virulent qu'Abdelaziz Bouteflika a démissionné. 24 heures plus tôt, le président algérien annonçait pourtant une démission avant le 28 avril, ce qui laissait 4 semaines de flou. En forçant la décision, Ahmed Gaïd Salah obtenait la semaine dernière le rôle de celui qui décide. Depuis, le chef des services de renseignement, Otman Tartag, a démissionné et toutes les divisions des services de sécurité sont désormais entre les mains du chef d'état-major. Une situation inédite qui augmente un peu la puissance du chef de l'armée algérienne. D'autant plus que ce mardi, selon ce qui est prévu par la Constitution, le président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien, Abdelkader Ben Salah, prendra les rênes du pays. Mais ce proche d'Abdelaziz Bouteflika, de 78 ans à la tête du Sénat depuis 2002, aura du mal à convaincre la rue qui demande déjà son départ. Ce n'est pas lui qui fera de l'ombre au chef d'état-major vers qui tous les regards se tournent désormais.
Les États-Unis interdisent à 16 ressortissants saoudiens d'entrer sur le territoire américain. Selon Washington, ils auraient joué un rôle dans le meurtre de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien tué en octobre dernier dans le consulat du Royaume à Istanbul. Les États-Unis encore et son président Donald Trump, qui fait en quelque sorte, à quelques heures des élections législatives en Israël, un cadeau à son ami Benjamin Netanyahou. Il place l'armée idéologique du régime en Iran, les gardiens de la révolution, sur la liste noire américaine des organisations terroristes étrangères. Une décision en rupture avec les présidences précédentes, Grégory Phillips.
Avant la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, Barack Obama avait envisagé de classer les gardiens de la révolution au rang d'organisation terroriste, au même titre que le Hezbollah par exemple. Mais l'administration de l'époque avait renoncé, estimant qu'une telle décision aurait pu mettre en danger les intérêts américains dans la région et accentuer aussi le risque d'opérations terroristes menées contre les ressortissants ou les soldats américains déployés au Moyen-Orient. 4 ans plus tard, la Maison-Blanche franchit donc le pas. Malgré l'avis défavorable des généraux du Pentagone, les gardiens de la Révolution, qui comptent environ 125 000 soldats, en charge notamment du programme balistique, sont donc désormais sur la liste noire des États-Unis. Tous ceux en lien avec l'entité gouvernementale seront dès la semaine prochaine soumis à des sanctions financières renforcées. En réponse, Téhéran a immédiatement placé le commandement militaire américain au Moyen-Orient sur sa propre liste des organisations terroristes.
Et notons que c'est la première fois que Washington qualifie officiellement une armée étrangère d'organisation terroriste.
Il est 8h09 sur... sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. L'Assemblée nationale valide l'instauration d'une taxe sur les grosses entreprises du numérique.
Oui, les GAFAM notamment, comprenez Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. La taxe sur leurs activités numériques s'élèvera à 3%. Les députés ont approuvé le texte hier soir par 55 voix contre 4 et 5 abstentions. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est ensuite félicité que la France ouvre une voie. Il se dit certain que beaucoup de pays suivront, faisant ainsi fi des critiques de Washington, qui juge le texte extrêmement discriminatoire. Le député La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché, ne craint pas, dit-il, d'éventuelles sanctions de l'administration Trump.
Ça fait un moment qu'ils sont déjà sur cette logique avec Donald Trump, hein, donc ils n'ont pas attendu qu'on fasse la taxe GAFA. On a eu déjà sur l'acier des mesures très dures de prise par Donald Trump. Je me méfie du protectionnisme. Le protectionnisme peut mener au nationalisme, et le nationalisme, vous connaissez l'expression du président Mitterrand, peut mener à la guerre. Donc je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on soit l'idiot utile, finalement, de la mondialisation. Si, pour être en bon terme avec les États-Unis de Donald Trump, il faut se soumettre aux injustices de sa politique, nous allons avoir une difficulté. Moi, je suis un fervent partisan et un ami des États-Unis d'Amérique. Je crois vraiment que nous avons beaucoup de choses à construire ensemble. Et dans un monde aussi bouleversé qu'est le nôtre actuellement, il ne faut pas perdre de vue quels sont ses amis et ses alliés historiques. Mais Donald Trump a sa part de responsabilité. Il ne peut pas nous demander, sur tous les sujets, de finalement accepter sa loi sans discuter. Et donc, nous aurons sur ce sujet-là des exigences. Nous taxerons les GAFA, quoi qu'en pense Donald Trump.
Le député de la majorité, Aurélien Taché, au micro de Steven Gouaillet. Et c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée qu'Édouard Philippe présentera cet après-midi les lignes de travail suite au grand débat national. Hier déjà, devant des citoyens, représentants d'associations et des maires notamment, le Premier ministre a surtout retenu l'exaspération fiscale des Français. L'exécutif veut y répondre par une baisse des impôts. En revanche, les propositions des Gilets jaunes, comme le retour sur l'ISF ou l'instauration du RIC, référendum d'initiative citoyenne, ces propositions ne sont pas citées dans la synthèse du gouvernement. La fiscalité au centre des réponses de l'exécutif et au centre aussi du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons après ce journal. La Société Générale a annoncé hier au syndicat vouloir supprimer 1600 postes dans le monde, dont environ 700 en France. Sera notamment touchée sa banque de financement et d'investissement. En bref, encore cette grève inédite des associations d'aide aux migrants. 17 associations ou collectifs citoyens de Paris et de sa banlieue suspendent aujourd'hui leurs activités. Ils dénoncent une situation qui n'est désormais plus tenable dans les campements de la capitale, dénoncent également l'inaction de l'État français. Elle lance ce matin un appel à la vigilance raisonnée sur les technologies numériques. L'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et celle des technologies ont rédigé toutes les trois un document d'une trentaine de pages et elles ne permettent pas vraiment de trancher quant à la dangerosité des écrans, Tarach Legel.
La seule recommandation précise porte sur les plus petits. Jusqu'à 3 ans, les enfants ont besoin d'interactions variées, impliquant tous leurs sens. Ils imitent les adultes et il ne faut pas les laisser seuls devant des écrans. Cela dit, on ne sait pas dans ce cas-là si ce sont les écrans qui sont intrinsèquement dangereux pour le développement de l'enfant ou si c'est le comportement défaillant de leurs parents. Pour les plus grands, notamment les adolescents, l'une des questions est de savoir si l'utilisation excessive des écrans engendre une véritable addiction. L'addiction, rappellent les académiciens, c'est éloignée de sa définition médicale. Pour être vraiment lourde, elle doit s'accompagner ici d'au moins 12 mois de déscolarisation, ainsi que de troubles sévères comme la dépression ou l'anxiété. Or, le degré de dépendance aux écrans est très variable d'un enfant à l'autre. On ne peut donc apparemment pas fixer un temps limite, laisse entendre l'avis. Par ailleurs, il faut être vigilant vis-à-vis des contenus, aussi néfastes que la quantité, car les enfants sont exposés très tôt à la violence, au harcèlement, au prosélytisme. Le rôle des parents comme garde-fous est alors fondamental. Enfin, les écrans jouent sur le sommeil. Ça au moins c'est certain. La lumière bleue nuit à la sécrétion de la mélatonine qui permet de s'endormir. En revanche, on ne sait pas si cette lumière abîme nos rétines. L'AVIS cite plusieurs études contradictoires.
Et c'est tout de même grâce à un écran que je vous livre ce matin les prévisions de Météo France. Le temps ce mardi sera marqué par des averses sur les frontières du Nord, ce matin d'abord, puis de la Manche jusqu'aux Pyrénées en passant par l'Île-de-France et le centre notamment, averses localement orageuses. Seules les côtes atlantiques pourraient y échapper. Côté température, Météo France prévoit 11 degrés ce matin à Lille, Bordeaux et à Clermont-Ferrand, 12 à Strasbourg, 13 degrés à Paris et à Lyon, 16 à Marseille.